Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Aujourd'hui, Franck Ferrand nous conduit au cœur du paranormal. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Des malades miraculés, des voyageurs du temps, des personnes douées d'ubiquité, vous savez, c'est-à-dire qu'elles se trouvent à plusieurs endroits en même temps, comme Yvonne Aimé de Malestroit, dont je vais vous parler, des voyants, des prophètes, voilà les acteurs du dictionnaire de l'impossible que vient de faire paraître Didier Van Kovelaert. Je suis très heureux de le recevoir, comme toujours, et avec lui, nous allons aller faire un tour, si je puis dire, de l'autre côté du miroir.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Olivier via Facebook qui souhaite connaître l'origine des termes hôtel de police, hôtel de ville ou encore hôtel des impôts.
Eh bien écoutez, ça ne doit pas être trop compliqué. Pour le moment, je vous propose d'aller faire quelques pas dans la cinquième dimension à la rencontre d'une personnalité tout à fait hors du commun.
Europe 1. Cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Pour tout vous dire, je viens d'apprendre, en écoutant Pierre de Villeneuve, la mort de Lucien Neuwirth, figure immense de la résistance. Je me souviens notamment de ce moment de la vie de Lucien Neuwirth qu'il racontait lui-même à la radio lorsqu'il a été présenté pour être fusillé. Vous savez, il avait en face de lui, évidemment, le peloton d'exécution. Il est fusillé, il a été sauvé par son portefeuille. La balle est allée se loger dans son portefeuille, il est tombé comme les autres et il aurait... Ce sont des vies tout à fait extraordinaires. Eh bien, Lucien Neuwirth a croisé, c'est le moins qu'on puisse dire, le parcours de la figure que nous allons évoquer maintenant. Le 22 juillet 1945 à Vannes, le général de Gaulle décore de la Légion d'honneur un certain nombre de résistants locaux et au premier rang, une religieuse qui est la mère supérieure des Augustines de Malestroit, mère Yvonne aimée de Jésus. Le général agrafe la décoration sur son habit religieux et en lui donnant l'accolade, il déclare « J'espère que vous n'êtes pas à Londres en même temps en train de vous faire décorer par Churchill ». Vous avouerez que la sortie est assez inattendue, à première vue incompréhensible. Pourquoi le général va-t-il dire cela à mère Yvonne aimée de Jésus? Eh bien, parce qu'il est au courant des bilocations de la religieuse. Qu'est-ce que c'est que la bilocation? C'est le fait d'avoir été vu par des témoins différents, évidemment, dans deux lieux en même temps, à une date et à une heure identiques. Eh bien, en l'occurrence, le 16 février 1943, alors même qu'elle était torturée par la Gestapo, la mère Yvonne aimée de Jésus serait apparue au père Labutte, son ami et confident, son fils spirituel. Nous aurons l'occasion de parler de lui dans un moment. Évidemment, ce père Labutte étant très proche de la religieuse, sa perception a pu être influencée et son témoignage doit être pris avec de grandes réserves. Mais il y a plus étonnant. Didier Van Kovelaert raconte qu'au moment où il corrigeait les épreuves de son livre, Le dictionnaire de l'impossible, il a reçu le témoignage de la fille d'un des marins bretons embarqués sur l'Éridan, un navire hôpital de la Royal Navy. Ces marins avaient vu apparaître à bord une femme que certains ont reconnue, donc qui était la mère Yvonne, et qui les a encouragés alors qu'ils étaient dans une situation absolument apocalyptique. Il faut imaginer ce bateau, ce navire qui est pris en pleine mer, qui est pris pour cible par l'aviation ennemie. Elle aurait hurlé « Courage, vive la France !» Le marin en question, c'était l'officier mécanicien Édouard Lecor, et son témoignage indirect est venu à Didier Van Kovelaert en quelque sorte comme une confirmation tardive. Alors, je vais être tout à fait honnête aujourd'hui parce que nous abordons un sujet un peu particulier pour lequel vous savez que j'ai depuis longtemps un intérêt et même une affection particulière. Mais il se trouve que dans l'affaire qui nous intéresse, je suis moi-même relativement circonspect. Alors, je ne vais pas vous demander de croire aveuglément à cette histoire de bilocation, simplement... Au-delà du phénomène paranormal, ce qu'il y a de fascinant concernant la femme dont nous allons parler, c'est sa personnalité hors du commun et c'est la force inouïe de son engagement au service des autres. C'est ce qui explique qu'en ce moment même, à l'heure où je vous parle, une procédure soit en cours à Rome pour obtenir sa béatification. Nous verrons où nous en sommes de cette procédure, évidemment. Et c'est ce qui transparaissait avec force dans l'interview qu'elle devait donner peu de temps avant sa mort à Léon Zitrone. C'était donc en 1951. Alors, pour reprendre les choses à l'origine et pour suivre ce personnage extraordinaire et tout à fait singulier dans tout le développement de ce qui va devenir des dons tout à fait hors du commun, le mieux est que nous repartions encore une quarantaine d'années plus haut, vers le début du siècle avant la Première Guerre mondiale. Nous sommes le 1er janvier de l'année 1911 et une petite fille de 9 ans, elle vient tout juste de faire sa première communion, cette petite fille va écrire avec son propre sang sur une belle feuille de papier ce qui pour elle doit faire office de pacte, un pacte avec le Christ, un pacte avec Jésus, encore une fois de la part d'une enfant de 9 ans. Voilà ce qu'elle écrit, cette fillette. « Ô mon petit Jésus, je me donne à toi entièrement et pour toujours, je viendrai toujours, je voudrais, pardon, toujours ce que tu voudras, je ferai tout ce que tu me diras de faire, je ne vivrai que pour toi, je travaillerai en silence et si tu veux, je souffrirai beaucoup en silence, je te supplie de me faire devenir sainte, une très grande sainte, une martyre, fais-moi être fidèle toujours. » C'est incroyable. Là, est-ce qu'on peut même parler d'une vocation chez une enfant aussi jeune? Mais elle n'est pas un cas unique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je fais moi devenir sainte, une très grande sainte. Vous voyez qu'il y a plus qu'une vocation, il y a une sorte de prédestination chez cet enfant. « Je veux sauver », ajoute cette lettre d'enfant écrite à l'encre de sang, « je veux sauver beaucoup d'âmes et t'aimer plus que tout le monde, mais je veux aussi être toute petite afin de te donner plus de gloire. Je veux te posséder, mon petit Jésus, et te rayonner. Je veux n'être qu'à toi, mais je veux surtout ta volonté. » Et c'est signé ta petite Yvonne. On est tout à fait, évidemment, dans cette atmosphère, ça fait penser, c'est tout à fait le genre de déclaration, de prière, d'intention qui fait penser à Sainte Thérèse de Lisieux. Bien entendu, on est dans cette atmosphère sulpicienne de la belle époque. Et l'auteur de ce document incroyable, cette petite fille qui, donc, dans l'âge tendre, est en quelque sorte touchée par la grâce, certains diront dévorée par sa foi, s'appelle Yvonne Beauvais. Elle est née donc 9 ans et demi plus tôt, le 16 juillet 1901, à Cossé en campagne, un petit bourg de Mayenne. Elle est née dans une famille sans histoire, une famille bourgeoise. Il se trouve qu'elle perd son père très tôt, alors qu'elle n'a que 3 ans. Et sa mère, Lucie, vous savez, doit aller travailler. C'est ce qu'on appelle un revers de fortune pour la famille. Alors la petite fille va être élevée par sa grand-mère maternelle au Mans. Et c'est à l'âge de 6 ans qu'elle rejoint sa mère et qu'elle va suivre sa mère à partir de là dans différents pensionnats dont sa mère a la direction, à Argentan, à Toul. Voilà ce qu'écrit Didier Van Kovelaert dans le Dictionnaire de l'impossible. « Dès son enfance, écrit-il, Yvonne manifeste une vocation active, joyeuse, colérique et semée d'événements mystiques parfaitement naturels pour elle, qui la font entrer dans le club très fermé des empêcheurs de prier en rond. » Alors, je ne vais pas vous raconter toute la jeunesse de cette petite fille, son départ pour l'Angleterre à 13 ans. Elle voulait entrer dans les filles de Jésus de Kermaria, où elle est pensionnaire, comme Thérèse de Lisieux, hein, qui est évidemment son grand modèle. À l'époque, c'est tout à fait naturel pour une petite fille qui a à ce point la vocation. En 1917, elle est très touchée par le phénomène de pauvreté. Elle a 16 ans. Yvonne Beauvais se rend à ce moment-là dans la banlieue parisienne, vous savez, dans cette espèce de ceinture de l'époque où l'on vit dans une pauvreté incroyable. Elle est là pour aider les pauvres, pour soigner les malades. Elle va faire tout ce qu'elle peut. Elle donne des concerts, elle vend des poèmes qu'elle écrit, même des images qu'elle peint elle-même, des images pieuses. Tout son temps, tout son argent de poche sont investis pendant des années. Et vous savez, c'est ce genre de personne qui a une vocation extraordinaire et contagieuse. Non seulement elle donne tout son temps, elle donne tout son énergie, mais ça lui donne à elle de la force. On la voit toujours rayonnante, enjouée, artiste, prête à rendre service. L'abbé Paul Labutte, qui donc sera considéré comme son fils spirituel, raconte, je cite, « Son amour des pauvres remontait à la petite enfance. Il sonnait à sa porte et demandait la charité. À ses 18 ans, c'était une époque où il n'y avait pas de protection sociale. Elle visite les pauvres. Elle s'occupe des vieillards et des mourants. Elle distingue deux sortes de pauvres, les siens, c'est-à-dire ceux qu'elle découvre elle-même, et ceux de Jésus, il les lui désigne. »
«
Mokwai sur Europe 1, un extrait de la bande originale de la série Les Revenants, diffusée sur Canal+, est récompensé hier aux Emmy Awards dans la catégorie meilleure série dramatique. Nous revenons, Franck, à votre récit sur Yvonne Aimée de la Malestroit.
Et oui, alors cette Yvonne Beauvais est de santé fragile, malgré cette extraordinaire énergie qui passe à travers elle. Elle se dévoue, je vous le dis, entièrement aux autres et elle finit par tomber malade. Ce n'est pas un rapport de cause à effet, forcément. C'est ainsi le 18 mars 1922. Elle se rend dans la petite clinique des chanoinesses Augustines Hospitalières de Malestroit. Donc on est là en Bretagne, dans le Morbihan. Si vous voulez, c'est sur la route de Rennes à Vannes. Et c'est très peu de temps après son arrivée à Malestroit, c'est le 5 juillet 1922, que cette jeune fille va avoir alors la révélation. Elle a 21 ans à ce moment-là. Je cite de nouveau Didier Van Kovelaert. À 21 ans, Jésus lui apparaît dans sa chambre tandis qu'une croix se dessine sur le mur. C'est elle qui raconte cela. « Veux-tu la porter ?» lui demande-t-il d'une voix très douce. Elle répond « Oui » spontanément. L'apparition lui précise alors que son engagement aidera à abréger la guerre que va connaître la France. On est dans une forme de prophétie tout simplement et on va venir évidemment dans cette dimension, prophétique de ce personnage. Elle appelle cette période son printemps mystique. Vous savez, dans toutes les vies de grands mystiques, vous avez ce moment de lumière absolue qui est toujours d'ailleurs assez extraordinaire lorsqu'on en lit le récit, que ce soit sous la plume du mystique lui-même ou sous celle des témoins qui ont pu assister à cette période de grâce qui va littéralement porter, transporter ces personnes. À partir de cet événement, elle devient religieuse. On peut dire qu'elle est même religieuse déjà avant d'avoir officiellement pris le voile dans ce couvent de Malestroit. Yvonne va être l'objet de phénomènes étonnants, des prémonitions, alors en quantité, des apparitions, vous venez de le voir, et qu'elle raconte elle-même, également des phénomènes de ce qu'on appelle la xénoglossie. La xénoglossie, c'est le fait de s'exprimer dans une langue étrangère, une langue que vous n'avez jamais apprise, mais que vous, à l'état conscient, évidemment, vous ne pouvez pas parler cette langue, mais dans un état de transe, en quelque sorte, vous vous mettez à parler cette langue étrangère. Et elle fera ça tout au long de sa vie. L'une des premières manifestations de ses dons, pour le moins particuliers, relève donc de la prophétie. Si vous l'aurez compris, je cite Didier Van Kovelaert, cette même année 1922, elle interrompit une conversation pour annoncer que la France, en 1939, serait envahie par des hommes verts tandis que des cylindres tomberaient du ciel. Alors il est clair pour nous aujourd'hui, dit Didier Van Kovelaert, qu'il s'agissait moins d'une invasion de Martiens que de soldats et des bombes de la Wehrmacht, mais la prédiction ne fut pas comprise sur le moment, car en 1922, l'armée allemande n'avait pas encore adopté l'uniforme vert, en tout cas vert de gris. Nous sommes donc clairement en face d'une personne tout à fait extraordinaire. Or elle écrit « Je n'ai jamais désiré ni cherché rien d'extraordinaire. Par tempérament, j'aime ce qui est simple. » Claire, ou encore, elle écrira, « Mon Dieu, donnez-moi cette paix sereine, paix de l'âme devant ma vie telle que vous me la faites. » C'est un personnage, en quelque sorte, qui reçoit autant qu'il donne, mais sans avoir l'intention de cultiver ses dons. Ça, c'est un aspect qui m'a frappé chez le personnage. On va y revenir, bien entendu. Vous imaginez bien qu'un cas comme celui que je suis en train d'évoquer suscite un certain nombre de questions et d'interrogations. En septembre 1922, sa convalescence est terminée. Je vous rappelle qu'elle est arrivée à Malestroit pour être soignée, tout simplement. Elle va donc quitter le monastère dans lequel elle reviendra et qu'elle appelle déjà son cher couvent. Jusqu'en 1927, elle va se rendre à Paris ou au Mans au gré des volontés de sa mère. Pour l'instant, la mère d'Yvonne ignore ce que sa fille ressent. C'est à ce moment-là, c'est dans cette époque, c'est dans ces années 20 que la jeune fille a l'inspiration d'une prière. « Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté, etc. » Cette prière, on l'imprime sur de modestes signets où figure d'ailleurs un cœur, symbole de l'amour du cœur de Jésus qui irrigue, qui inspire directement cette jeune fille. Cette prière, par l'intercession, est approuvée par l'évêque de Vannes pour son diocèse en 1932. Le pape va l'accepter pour l'ordre des Augustines de la Miséricorde de Jésus en 1933. La prière sera maintenue et étendue, si je puis dire, ce ne sont pas les termes consacrés, mais je fais exprès d'employer des termes plus banals pour être compris, si je puis dire, par Pie XII en 1900, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, c'est Jean XXIII qui, en 1958, en fera une prière de l'Église universelle. Et en 1940, pendant la guerre, on va créer des médailles avec une image que Yvonne a dessinée elle-même. Aujourd'hui, cette prière, elle est répandue en diverses langues dans le monde entier, parce qu'entre-temps, évidemment, cette Yvonne est devenue la mère Yvonne aimée de Jésus. Elle est devenue le personnage extraordinaire de Malestroit, un personnage dont on va voir qu'elle devient une sorte de guide. Alors là, pour des milliers et même pour des dizaines de milliers de fidèles au milieu du XXe siècle.
Sur Europe 1, nous écoutions un extrait du Messie et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'incroyable vie d'Yvonne Aimée de Malestroit.
Et oui, alors c'est en mars 1927, au printemps 1927, qu'Yvonne revient à Malestroit. Elle entre au couvent de Malestroit en Bretagne. Elle va rejoindre l'ordre des Augustines. Dès le mois de septembre, il y aura la cérémonie de vêture. Elle devient sœur Yvonne Aimée de Jésus en novembre. À la fin du mois de novembre, dès la fin du mois de novembre, elle tombe malade, si malade même, tellement malade qu'on va lui donner l'extrême onction. On lui fait prononcer ses vœux in articulo mortis, donc elle va devenir religieuse, pense-t-on, juste avant de mourir. Il faut imaginer toute la communauté, il y a là l'aumônier, son directeur, le supérieur ecclésiastique, etc., qui entourent le lit d'agonie de la jeune femme. Et là, ils sont les témoins de ce qu'il faut sans doute appeler un miracle, puisqu'ils veulent aimée reprend vie. Et dans un soupir, elle prononce cette phrase: « Ton amour sera mon ciel sur la terre ». Et une demi-heure après, elle a retrouvé sa place dans le cœur de la chapelle de Malestroit. À la fin de l'année, l'évêque de Vannes va lui donner l'autorisation de construire une clinique moderne, ici même à Malestroit, une clinique qui ouvrira en 1929. Alors ce que l'on sait d'elle, on le sait en grande partie grâce à l'abbé Paul Labutte, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sera son fils spirituel, et il raconte que tous les jours, elle se rend sur les bords du canal, elle s'assoit sur un banc et elle attend le Seigneur. Et elle voit à ce moment-là Jésus qui traverse la rivière, qui s'assoit près d'elle avant de l'instruire. Parle également du Seigneur qui attendait Yvonne Aimée à l'entrée d'un chemin, et selon lui, elle a beaucoup plus appris de cette manière-là qu'en lisant évidemment les livres de foi. Elle prie en permanence, cette Yvonne Aimée. Elle a vraiment peu de temps de répit, puisque même la nuit, elle est constamment en prière, en liaison, si je puis dire. Les bonnes nuits pour elle étaient rares. Paul Labutte parle de souffrance, car selon lui, elle est également violemment attaquée par le démon. Je cite un extrait du dictionnaire de l'impossible de Didier Van Kovelaert. En 1941, l'évêque et ses assistants sont en train de préparer avec elle l'envoi de colis aux Parisiens affamés. La température de la pièce s'élève soudain. Des plaies apparaissent sur le corps d'Yvonne. Des blessures, je cite, transpercent ses vêtements de part en part. Ses chairs sont, je cite, déchirées comme par un croc de boucher. De 21h à minuit, plus de 80 coups entaillent son corps jusqu'à l'os, au dire des témoins, lesquels ajoutent que le lendemain, elle circulait dans son monastère comme si de rien n'était, avec son énergie et son humeur intacte. Fin de citation. Elle parle d'une heure sainte douloureuse qui a lieu entre 23h et minuit, et Paul Labutte témoigne: toutes les souffrances n'ont jamais altéré sa joie et son rayonnement. Elle a un charisme, un don extraordinaire. C'est une femme incroyablement humaine, simple et pourtant si majestueuse. Elle possède un regard d'où elle répandait une atmosphère qui n'était pas de ce monde, douceur, majesté et beauté. Et elle ne perd pas de temps, Mère Yvonne, évidemment, il faut l'imaginer dans ses nombreuses activités. Et pourtant, sa santé, encore une fois, est constamment mise en danger. Elle vit des souffrances permanentes. Elle aura toutes sortes de maladies tout au long de sa vie, de sa courte vie du reste. Elle souffre, elle grossit, sa beauté naturelle est volontiers défigurée. Il faut imaginer, bien entendu, ce qui est en même temps un chemin de souffrance. Alors, elle a une vie qui est une vie monacale, monastique par définition. Le matin, elle fait son propre ménage. Avant d'aider à la cuisine, elle prépare le dessert. Avant de prier dans le petit bois attenant, elle travaille également comme secrétaire. C'est elle qui va préparer le chapitre général de l'ordre. Et on est dans une époque, vous savez, c'est la grande révision des constitutions. Et avec sa supérieure, elle va aller défendre son projet à Rome. Elle veut faire de cette nouvelle communauté de Malestroit le foyer de quelque chose de nouveau. Elle va y arriver, du reste, c'est assez important ça. Elle est chargée également de la formation des nouveaux venus, on a envie de dire, et pour cause. Évidemment, cette foi extraordinaire qui l'anime est complètement contagieuse. Elle est supérieure de la communauté en 1935, elle en deviendra présidente en 1939, et après la guerre, elle sera supérieure générale de la Fédération de tous les monastères de l'ordre. Alors, je dis après la guerre, mais évidemment, il y a tout l'épisode assez étonnant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut imaginer cette femme comme une grande résistante. Elle aide des résistants à chaque fois qu'elle le peut, notamment des pilotes alliés dont les avions ont été abattus par les Allemands. Elle les cache dans l'hôpital. Et ce qui devait arriver arrive. Le 6 février 1943, alors qu'elle a été capturée et incarcérée par les Allemands, elle est donc torturée. Lorsqu'elle s'est fait prendre, elle a réussi à faire prévenir Paul Labutte via une nonne du monastère qui lui remet une dépêche qui avait été établie entre eux. Yves, entrée en clinique chez Tante Germaine. Parce que Yves, c'était Yvonne, la clinique, c'était en prison, et Tante Germaine, évidemment, c'était les Allemands. Alors, à ce moment-là, Paul Labutte, l'abbé Labutte, prend la décision de se rendre à Paris, accompagné de sa mère, et à l'arrivée à la gare, quand il arrive à Montparnasse, il se retourne et soudain se retrouve face à Yvonne. Et alors, il lui pose des questions. Encore une fois, c'est dans le dictionnaire de l'impossible. Il dit à ce qui n'est pas un spectre, puisqu'il la touche. Il dit « Vous êtes libérée ?»« Non, je suis en prison », répond-elle. « Je subis la torture debout devant un mur. J'ai la tête dans une sorte d'étau. » Elle avait murmuré dans un souffle ces étranges paroles, et écrit l'abbé Labutte. « Alors je compris dans un éclair qu'elle se trouvait dans un état de bilocation, qu'elle était présente en ce moment même simultanément dans la prison et dans le métro. Vous êtes en deux endroits, dis-je à voix basse. Pour toute réponse, elle inclina la tête, puis leva vers moi lentement, silencieusement, un visage de douleur. Ses yeux m'apparurent agrandis et extatiques, les paupières ne battaient pas. C'était bien elle, je la voyais, je l'entendais respirer et parler, je la touchais de mes mains, je ne rêvais pas. » C'est un témoignage tout à fait extraordinaire et qui est à l'origine, évidemment, de toute la grande, si j'ose dire, la légende dorée de mère Yvonne Aimée de Malestroit. Dans un instant, avec l'auteur de ce dictionnaire de l'impossible, avec Didier Van Kovelaert, nous allons voir quels sont les autres témoignages de ce phénomène incroyable de bilocation.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des phénomènes paranormaux. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Didier Van Kovelaert, écrivain, auteur notamment du dictionnaire de l'impossible aux éditions Plon.
Cher Didier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu nous parler non seulement de mère Yvonne Aimée, mais d'un certain nombre d'autres personnages de l'histoire qui ont eu un rapport particulier, non seulement avec l'au-delà, mais avec l'invisible en quelque sorte. Vous avez appelé cela le dictionnaire de l'impossible. C'est un très bon titre, car je pense qu'il décrit exactement le sentiment qu'on peut avoir face à tous ces phénomènes. Alors, avant de venir à tout cela, il faut que nous réglions, si j'ose dire, ce dossier d'ailleurs en instance à Rome et depuis longtemps, de mère Yvonne Aimée de Jésus, donc de Malestroit, me dit Marie-Claire, qui me précise que les Bretons ne prononcent pas le S, en aval le S. Donc c'est pas Malestroit, comme je le dis depuis le début, c'est Malestroit. En l'occurrence, cette religieuse aurait donc, en ce mois de février 1943, été vue, et quand je dis vu, même touché physiquement, dans deux endroits différents au même moment. Il faut quand même croire, il faut croire sur parole le père Labutte, si j'ose dire.
Non, il ne s'agit pas d'ailleurs, il ne faut rien croire sur parole. Toute la démarche du dictionnaire de l'impossible, c'est justement d'aller vérifier ce qui nous paraît incroyable, impossible. Et là, on est en face d'un personnage historique. On est en présence de milliers de témoignages, non seulement de son héroïsme de chef de résistance, elle a sauvé un nombre de maquisards, de juifs, de
soldats,
de pilotes
alliés, etc.,
anglais, tout ça, de parachutistes incroyables. Elle avait des passerelles partout. C'est cette énergie incroyable. Vous avez rappelé combien elle était malade toute sa vie. Elle aurait dû être morte dès le début. Elle est en plus d'une intelligence et même d'une rouerie en temps de guerre exceptionnelle. Rappelons que son couvent de Malétroit a été réquisitionné par les Allemands qui en ont fait un hôpital et leur commandant tour. Et au nez et à la barbe des occupants allemands, elle va soigner les maquisards et les résistants dans une autre aile, au grenier, à la cave, dans les soupentes. Et il y a un tour de passe-passe. Alors, on est éberlué devant tous les cas de bilocation avec les centaines de témoignages de gens qui l'ont vu en des endroits différents. Mais pour moi, c'est un dossier extraordinaire. C'est en chair et en os ce que réussit cette femme en tant que résistante qui est hallucinant et qui lui vaudra de la part du général de Gaulle non seulement la décoration dont vous avez parlé, la Légion d'honneur en 1945, mais surtout d'autres visites privées au couvent. De Gaulle était au courant depuis 1943 de sa bilocation vue par une vingtaine de marins.
De marins,
à bord,
voilà, c'est
du,
ça. Oui.
Du navire de l'Eridan. Je vous raconterai après encore quelques dessous de cette histoire. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous disiez qu'il y avait un dossier en instance au Vatican.
Mais oui.
Non. En 1960, son procès de béatification est stoppé net,
voilà.
Avec décision. Il est ordonné de un silence absolu sur elle. On a le droit de publier aucun livre. Nous ne connaîtrions pas aujourd'hui Yvonne Aimée de Malétroit sans les témoignages de résistants qui se sont accumulés sur elle. On ne l'aurait pas connue par le canal de l'Église sans l'abbé René Laurentin qui, au mépris de cette interdiction du Vatican, a décidé d'écrire sur elle. Et le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, lui a dit, parce que René Laurentin, grand spécialiste des phénomènes mystiques, frère de la journaliste Ménie Grégoire, était un personnage trop considérable pour qu'on le fasse taire. De toute façon, son caractère n'aurait pas accepté la censure. Et Ratzinger, le cardinal Ratzinger, lui dit, très bien, écrivez sur elle si vous voulez, mais...
Qui était préfet pour la doctrine de la foi, faut dire. Hein,
voilà.
La police de l'Église, si je puis dire.
Écrivez sur elle, mais c'est en votre nom propre. Vous n'engagez pas l'Église si vous écrivez sur elle. Alors pourquoi? Pourquoi ce silence? Cette femme est une sainte. Aussi bien sur le plan de la foi, des stigmates que des actes héroïques. Et le problème, c'est que le cardinal Ottaviani, en 1960, lorsqu'on décide de rayer son dossier, il a dit « trop de miracles, ça suffit ». Elle en fait trop. Elle a des stigmates comme Jésus, elle guérit comme Jésus, elle a de la
bilocation. Vous dites, on l'accusait de susciter une dévotion suspecte, d'entretenir un véritable culte de la personnalité, qui n'était en réalité qu'un effet de l'admiration qu'inspirait son héroïsme. Absolument. On lui prêtait une ambition sans borne. Pire, l'incroyable réussite qui marquait chacune de ses actions fut interprétée par certains religieux comme un indice de possession satanique. Une emprise qu'elle aurait délibérément acceptée afin d'exercer un ascendant irrésistible sur le commun des mortels comme sur les élites. Le général Audibert, chef de la résistance de l'Ouest qu'elle avait caché au couvent de Malétroit, ne l'avait-il pas salué au garde-à-vous devant témoin au moment de son départ en l'appelant « mon général » ?
Oui, on lui aura tout fait à Yvonne Aimée. D'abord, c'est selon toute vraisemblance, on en est quasiment sûr aujourd'hui, c'est une frange du clergé collabo de l'époque qui l'a dénoncé à la Gestapo, parce qu'évidemment, elle était en affaire avec beaucoup de communistes dans le maquis. Il faut se replacer dans un contexte assez tendu où l'Église, comme la France, était partagée entre les résistants et les collabos. Et voilà, on a surtout.
Alors vous dites, tout a été classé en 1960, il n'y a pas de chance que ce dossier, énorme dossier, hein, 60 000 pièces, dites-vous.
C'est, oui. Oui. Et en plus, comme je vous disais, non seulement des témoignages de médecins sur les stigmates, des témoignages innombrables de résistants, de personnes sauvées par elles sur ces vertus. Et puis, sans parler bien sûr de toutes les preuves de ces voyances, de ces prophéties, car elle notait tout. L'historien Jean-Christian Petit-Fils rappelle dans son livre Jésus cet extraordinaire récit qu'elle fait lorsqu'elle a 20 ans, où elle va décrire la scène qui se passera 20 ans plus tard, lorsque le fameux général Audibert, chef de la résistance de l'Ouest, la décore. Et elle écrit donc, et là on a le carnet, donc on est certain de l'authenticité
et de la date, du
document et de la date. Et elle écrit cette vision du futur au passé. Elle écrit « Il faisait beau, j'étais habillée en religieuse, j'étais au milieu de religieuses, je semblais être leur mère, et un grand général se pencha sur moi, je portais 5 médailles, et il m'en accroche une 6e. ce qui sera le cas, la cinquième étant la Légion d'honneur remise par De Gaulle en 1945. Oui. Et là, nous sommes en 1949, c'est le général Audibert qui la décore de la Croix de Guerre. Elle a déjà eu les médailles anglaises et allemandes et américaines équivalentes. Et voilà, toute sa vie, cette femme aura eu la panoplie de tout ce qui... les stigmates, les visions de tous les grands mystiques, mais elle aura en plus cette action d'héroïne de guerre qui lui sera reprochée. Peut-être savait-elle trop de secrets, peut-être. Et puis c'était une femme et elle embarrassait l'Église. Alors, il y a eu des tas de choses, voilà, qu'on a essayé de mettre en avant pour clore le dossier, mais je pense que le pape François va réveiller ce dossier.
Alors, dans ce dictionnaire de l'impossible, qui, comme son nom l'indique, est par ordre alphabétique, bien entendu, vous évoquez un certain nombre d'autres cas religieux. Hein, et notamment, alors, j'ai presque envie de dire, aux antipodes de ce que nous venons de dire, l'enquête extrêmement sourcilleuse et suspicieuse d'Émile Zola à Lourdes.
Oui, alors ça, c'est encore une autre aventure. Je peux faire un tout petit retour sur Yvonne Aimé. Oui, c'est vrai que j'étais en train de corriger les épreuves du dictionnaire de l'impossible. Donc, j'avais passé à une amie que j'évoquais dans une autre entrée, une amie médium, pour voir si elle était d'accord sur ce que je disais, si je ne m'étais pas trompé. Et elle lit l'ensemble du dictionnaire et elle me dit « Ah, c'est bien que tu parlais d'Yvonne Aimé ». Yvonne Aimé que j'ai découvert en travaillant sur Padre Pio, parce que tout est disponible. On va sur Internet, on voit des tas de témoignages, on voit le film avec De Gaulle, l'interview de Léon Zitrone, mais encore faut-il savoir chercher le nom d'Yvonne Aimé. Et elle me dit, j'ai été sauvé par les Augustines pendant la guerre parce que mon père avait tué les Allemands et était parti à Londres avec De Gaulle. Les Augustines de Tréguier avaient caché ma mère et moi-même quand j'étais bébé. Et après la guerre, Yvonne Aimé est venue quand elle était supérieure de toutes les Augustines de France. Et elle me dit, me raconte mon amie Marie-France Cazot, elle me prend dans ses bras, elle se promène dans le cloître avec moi et elle me dit, tu sais, quand ton papa reviendra en France, il te dira, lui aussi, il m'a vu. Et en fait, Édouard Lecor, cet officier mécanicien qui était à bord du navire Léridan, était un des témoins de cette apparition d'Yvonne Aimé pendant qu'elle était torturée à la Gestapo. Il n'était pas revenu en France encore après la guerre, donc sa fille ne l'avait pas revue. Et quand son père est revenu, elle lui a dit, il y a une religieuse qui m'a dit ça, et c'est là qu'il lui a raconté cette apparition. On est devant un dossier stupéfiant, et c'est le hasard, entre guillemets, qui m'a amené ce témoignage supplémentaire.
Vous dites, c'est le sous-titre de votre ouvrage, comprendre enfin ce qui nous dépasse. En l'occurrence, oui. Voilà, c'est ça. En l'occurrence, ça nous dépasse incontestablement, mais est-ce qu'on le comprend? C'est une autre
affaire.
Je
pense que les dispositions d'esprit dans lesquelles on est attirent vers nous des événements particuliers. Et cet enfant qui à 10 ans décide pas seulement d'être une sainte, d'avoir une vie religieuse, mais de se dévouer pour tous les pauvres et qui accepte, elle accepte les souffrances, le destin, elle accepte. Mais lorsque Émile Zola, dont vous parlez, d'écrire sur Lourdes, c'est la même chose. C'est-à-dire l'état d'esprit de Zola va totalement modifier le destin de deux personnes. En tout cas, c'est ce que
Arrive à Lourdes dans des dispositions d'esprit, lui, qui ne sont pas très ouvertes, a priori.
Oui, il a décidé d'écrire son roman Lourdes, où il prouve que tout cela, c'est de la superstition, c'est une exploitation de la détresse, de la souffrance
la
humaine.
Oui,
il a, dans Zola est plein de compassion. Zola dit par ailleurs, dans les journaux, si Lourdes ne devait servir qu'à donner de l'espoir aux désespérés, ce serait merveilleux. Donc, il n'est pas, Zola est tout sauf quelqu'un d'insensible,
sectaire,
ni d'insensible à la souffrance. Simplement, il est contre le parti clérical et il accuse les médecins d'être complices de religieux qui veulent faire croire au miracle. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il prend le train blanc, le train des pèlerins qui se rend à Lourdes, fidèle à sa méthode de documentation très journalistique, et il choisit dans le train ces deux héroïnes. Deux femmes, il prend deux tuberculeuses, une de 35 ans, une de 18. Celle de 18 a en plus le visage complètement mangé par un lupus. Elles sont à l'article de la mort. Et malgré cela, gentiment, elles ont reconnu Zola et elles répondent à ses questions. Et quand ils arrivent à Lourdes, Zola tient ces deux personnages, tient ces deux héroïnes. Elles sont emmenées en civière vers les piscines Et lui va au bureau médical pour consulter les dossiers. Il est en pleine étude de ses dossiers lorsque, une heure plus tard, on frappe à la porte. Et c'est Marie Lenormand, l'une de ses femmes, qui arrive et elle est guérie. Il a vu tuberculeuse au dernier degré. Elle entre, sa respiration est normale. Une vingtaine de médecins présents se jettent sur elle. Et Zola, éberluée, ne peut que constater ce qui a l'air d'une guérison spontanée. Et il aura d'ailleurs le courage de déclarer « je l'ai vu dans cet état ». Absolument. Oui. Zola est tout sauf quelqu'un de peureux, on le sait. C'est quelqu'un qui s'engage, même contre ses convictions. Mais une heure après, alors il se remet à travailler, toc toc, deuxième personne rentre, là c'est Marie Lebranchu, c'est la deuxième, elle est aussi guérie de sa tuberculose, et en plus le lupus est en train de disparaître de son visage. Et Zola écrit, on observait en effet un sourd travail de guérison. Vous imaginez l'état de Zola, c'est les deux femmes qu'il choisit.
Un peu déconfi.
Bon, cela dit, Zola fait ce travail d'honnêteté intellectuelle, il rentre à Paris et il écrit son roman, mais il l'écrit tel qu'il l'avait conçu. C'est-à-dire que ces deux femmes, dans le roman, vont mourir dans le train du retour, d'une rechute. Elles se sont crues guéries par la foi. Eh ben non, elles meurent. Sauf que dans la réalité, elles lui survivront plus de 20 ans. Elles seront authentifiées toutes les deux le même jour, en tant que miraculées par l'Église, numéro 16 et numéro 17, et elles dédieront leur titre à Zola. Parce qu'elles diront, c'est parce que Monsieur Zola nous a choisis comme héroïne que Dieu nous a guéris.
Snow sur Europe 1, un extrait de la bande originale de la série X-Files, puisque nous parlons.
Mais oui, sont nos X-Files
Exactement.
Historiques aujourd'hui.
Nous parlons des phénomènes paranormaux Exactement. Avec votre invité, Franck Didier Van Kovelaert, écrivain, auteur notamment du Dictionnaire de l'impossible aux éditions Plon.
Et prix Goncourt 1994 pour un aller simple, évidemment. Nos auditeurs n'ont pas oublié ça. Alors, ils n'ont peut-être pas oublié non plus l'émission que j'avais consacrée à Victor Hugo et aux tables tournantes. Un mot peut-être là-dessus, simplement, puisqu'on est dans un cas relativement proche de celui d'Émile Zola. Un Victor Hugo, pour le moins incrédule, qui ne veut pas du tout entendre parler de ces histoires de table. Et puis Delphine de Girardin arrive chez lui un jour. Il cherche une communication avec sa fille, en quelque sorte, qui a disparu, Léopoldine. Et
oui,
finalement, il va se jeter littéralement dans le spiritisme.
Oui, c'est la détresse après la mort de sa fille. Bon, je serais un peu plus nuancé parce qu'il voyait les médiums. Il y avait un célèbre voyant qu'il partageait d'ailleurs avec Napoléon III. Ils avaient le même voyant, ce qui est assez intéressant quand on connaît l'évolution de leur rapport. Lorsqu'il est à Jersey puis Guernesey, c'est vrai que tout à coup, il bascule dans cette obsession de donner la parole aux morts à travers ce qu'il appelle ses tables parlantes, et notamment à des confrères, à Dante, à Shakespeare, à Molière, dont il pense recueillir des inédits, notamment un inédit assez superbe qu'il attribue à Shakespeare et qui semble un peu, d'après les analyses qui sont faites par les spécialistes, bien une sorte de rencontre entre l'univers hugolien et l'univers de Shakespeare, entre le style et les thèmes chers aux deux. Et puis il convoque aussi un vivant à cette table. Il convoque Napoléon III pendant son sommeil, de manière à l'insulter, à lui reprocher ce fameux coup d'État qui les a séparés, car ils étaient très très amis avant cela, et c'est grâce au soutien de Victor Hugo en grande partie que Louis-Napoléon a été élu président de la République auparavant. Et puis il lui arrive des choses étonnantes. Il est un jour, un voisin l'accuse d'avoir promené son chien sans laisse, sa chienne Chounia, alors qu'il est... Hugo dit, mais non, j'étais en train de travailler chez moi. Or, des tas de témoins ont vu sortir. Est-ce qu'il lui est arrivé la même chose que lorsqu'il convoquait le double de Napoléon III dans son sommeil? C'est pas... Quand on entre dans cette logique du spiritisme, oui, on peut modifier la réalité autour de soi. C'est ça qui m'intéresse là-dedans. C'est-à-dire que Hugo en est convaincu. Il va trop loin à un moment donné.
Ce que je trouve très, très beau dans votre approche, justement, c'est que vous ne vous contentez pas d'amuser la galerie, si je puis dire, avec des phénomènes incroyables. Ce qu'avait fait avec un très grand talent, du reste, Guy Breton et Louis Powels dans les histoires magiques de l'histoire de France. Bon. Mais là, vous allez plus loin, si je puis dire. C'est-à-dire que vous cherchez à comprendre quels sont les phénomènes à l'œuvre. Et vous évoquez notamment la synchronicité jungienne, sur laquelle on ne s'attendra pas, nous, aujourd'hui. Mais enfin, et il y a chez vous une démarche d'interrogation et de questionnement au-delà de la simple...
De toute façon, tous les cas que j'ai choisi dans ce dictionnaire ce sont les cas où il y a des témoignages historiques certains, des preuves scientifiques, ou de très forts indices. Il y a des expériences scientifiques reproductibles. Voilà, on n'est pas dans le paranormal. J'aime pas ce mot. Vous savez, quand il a été employé, une des premières fois, c'est lorsque, en 1902, le président de l'Académie des sciences, le grand chimiste Marcelin Berthelot, a censuré une publication ayant trait aux atomes et aux molécules, qui étaient des chimères, qui ne pouvaient pas exister.
Pour lui, c'était
du paranormal.
Possible.
Soyons prudents sur ce qui est normal ou paranormal. Parlons plutôt d'extraordinaire.
Ça nous ramène au Curie, ça, et à toute cette grande aventure. Alors, voilà.
Alors par exemple, oui, vous disiez Jung, cette fameuse histoire du scarabée de Jung. Un jour, il a une de ses patientes qui est absolument réfractaire à tout ce qui est du domaine de l'inconscient, de l'analyse. Cette femme est très mal, mais il est impossible de la psychanalyser. Et un jour, elle parle d'un rêve récurrent où elle rêve d'un scarabée d'or qui lui apparaît. Et pour Jung, il est évident que le scarabée d'or, chez les Égyptiens, c'est un synonyme de renaissance. Est-ce que l'inconscient de cette dame essaierait de lui envoyer un message? Doit-il lui donner cette interprétation ou non? Il est en train de se poser cette question lorsque un scarabée tape à la fenêtre. Un scarabée doré, une cétoine dorée, l'équivalent du scarabée d'or chez les Égyptiens. Alors il ouvre la fenêtre et il dit ça à cette femme, et en fait c'est le déclic. Et cette femme va enfin sortir de ses problèmes grâce à cela. Qu'est-ce qui a fait venir ce scarabée qui jamais n'était venu sous cette fenêtre? Est-ce le rêve de cette dame? Est-ce le dilemme de Jung? Est-ce le hasard? Ce questionnement est vraiment important.
En tout cas, il faut sortir, pour le comprendre et pour l'admettre, il faut sortir d'un simple lien de causalité et entrer dans un lien que Jung appelle donc de synchronicité.
Vous savez, les pouvoirs de notre cerveau sont incroyables. Il y a eu en 2002, j'ai découvert une formidable expérience publiée par l'Université de l'Illinois, de grands chercheurs, McDonough, Don et Warren. Ils ont mis des sujets devant un écran où des cartes apparaissaient. Et il s'agissait de deviner quelle carte allait apparaître. Et ils étaient, ces sujets sous électrode, on voyait leur électroencéphalogramme. Eh bien, avant qu'ils ne devinent la bonne carte, le signal de l'électroencéphalogramme changeait. Avant que la carte apparaisse, si leur réponse était bonne, c'est-à-dire que la conclusion elle est renversante, ça veut dire que notre cerveau sait qu'il a raison avant que notre conscience ne le découvre. Donc des exemples comme ça,
il y en a des savoir qui combien sont de temps avant, ce qui pourrait peut-être être une des explications des phénomènes de prédiction, tout simplement. Vous racontez un phénomène étonnant, celui du Titanic.
Ouais.
Il y a des personnes qui avaient vu en quelque sorte avant.
Alors beaucoup de gens connaissent l'histoire de Morgan Robertson qui 14 ans avant le naufrage a décrit ce naufrage d'un bateau qui s'appelait le Titan. Et avec les mêmes dimensions, la même vitesse, le même lieu, le même iceberg, la même heure, la même attitude du
commandant. C'est 16 ans avant le naufrage, ça, c'est ça hein.
14 ans. Oui. Mais 26 ans auparavant, il y a un autre écrivain beaucoup plus considérable, qui s'appelait William Stead, qui avait écrit, qui a même écrit deux textes dessus. Et où il annonce, où il décrit ce naufrage à chaque fois pour fustiger cette course au profit des compagnies qui ne mettent pas assez de canaux de sauvetage, qui font la course à la vitesse, qui, ce sera bien sûr la raison de cette tragédie. Et ce qui est extraordinaire dans le cas de William Stead, c'est que bien sûr, on a la preuve de ses écrits qui sont de la pure anticipation à ce moment-là. Avec par exemple un central téléphonique à bord. Ce qui est totalement surréaliste. C'est la première fois qu'il y aura un central, en effet.
Sur
c'est
un
top
sur
secret.
Embarqué, oui.
Alors, on a beau dire que oui, en 1892, il y a eu la compagnie a annoncé dans le New York Times les dimensions de son bateau futur, qui donc serait lancé en 1912. Mais ça, non, il y a des tas de détails. Et puis, bien sûr, ça n'enlève rien à la prédiction du naufrage au lieu et à leur pile.
Et dans les conditions, oui, c'est ça.
Et ce qui est extraordinaire dans le cas de William Stead, cet homme qui était un très grand journaliste, qui a inventé le livre de poche, les collections jeunesse, qui était un très grand féministe, qui a fait de la prison même parce que il essayait de démanteler des réseaux de pédophilie dans l'Angleterre victorienne et donc des notables l'ont fait enfermer, continue à diriger son journal depuis sa prison. Eh bien, cet homme va embarquer à bord du Titanic pour essayer d'empêcher cette catastrophe dont il a reçu la certitude par les moyens d'intuition romanesque ou de médiumnité 26 ans auparavant. Et il ne réussira pas à convaincre le pilote de freiner, de ralentir, de ne pas foncer dans le brouillard pour gagner ce record de vitesse. Et William Stead mourra à bord du Titanic lors du naufrage qu'il avait pré-écrit.
Il faut reconnaître que ça ne s'invente pas.
Ah ben, ce qui est bien avec les écrivains, c'est que quand ils ont de la médiumnité, ça se voit. Lorsque Jules Verne écrit de la Terre à la Lune en 1869 et qu'il annonce que un boulet tiré depuis Columbia va mettre 73 heures et 13 minutes pour atteindre la Lune, lorsqu'Apollo 12 va réussir cet exploit 100 ans plus tard, Apollo 12 mettra 73 heures et 10 minutes. Il y a une erreur de 3 minutes de Jules Verne. Alors d'où lui est venue l'info? Sur quelle base de calcul?
Coïncidence, diront les esprits fermés.
Ouais, mais il y en a beaucoup. Hein, quand vous regardez dans le dictionnaire de l'impossible, au chapitre coïncidence, là,
ah oui, c'est
passionnant, la coïncidence, ça c'est paranormal.
Nous sommes bien partis. Là, on pourrait comme ça faire 3 heures sur tous ces phénomènes. Alors, il faut que je choisisse parmi toutes les entrées de votre dictionnaire de l'impossible, Didier Van Kovelaert. Je choisis évidemment le personnage qui fascine et qui est, dont on sait qu'il a bien entendu eu un rapport très particulier.
Hitler,
c'est
Hitler.
Passer
Hitler dans
vos
yeux,
évidemment,
là, oui.
C'est Hitler.
Alors,
vous
Hitler...
êtes devin, vous.
Non, non, ça, je lis uniquement dans votre regard, là. Hitler. Oui, qui est arrivé au pouvoir grâce à l'aide des sociétés secrètes, ça on le sait, mais et il avait évidemment ce charisme extraordinaire, ce magnétisme, ce type qui était capable de soulever des foules incroyables, avait une obsession de la médiumnité, il avait plein de médiums autour de lui, mais... Dès qu'on lui disait quelque chose qu'il n'avait pas envie d'entendre, il faisait tuer le médium. Donc ça s'est su assez vite,
oui.
Ce qui fait que tous les médiums lui disaient ce qu'il avait envie d'entendre. Oui, le Grand Reich durera 1000 ans. Oui, les Anglais, les Américains seront rayés de la surface de la Terre. Oui, bon. Et puis arrive quand même le désastre russe. Arrive tout ça. Hitler est dans son bunker et un mois avant son suicide, il fait venir le seul voyant rescapé de sa folie meurtrière, qui s'appelle Bernd Unglaube. Pour ceux qui connaissent l'allemand,
oui,
ça ne s'invente pas.
Mécréant.
Oui, ou celui qui ne croit pas ou qui n'est pas cru.
Oui.
Et qui lui avait prévu en 1939 qu'il mourrait en 1945 et que le nazisme serait un désastre absolu et que tout ça serait fini. Et cet homme, curieusement, on a oublié de le tuer. Il est encore en prison. Hitler le fait venir et lui dit « c'est votre faute ». Désactiver votre prophétie de merde et il faut que le Troisième Reich dure 1000 ans comme c'était prévu, donc c'est votre faute, donc désactiver. Aussitôt le type qui
n'a pas
en
le
échange
choix.
De sa liberté dit oui non, je me suis trompé, maintenant toutes les forces sont à l'œuvre, tout va rentrer dans l'ordre, les alliés, enfin les anglo-américains seront battus au dernier moment. Et c'est là qu'Hitler fait ce discours incroyable depuis son bunker en disant mes voix, son discours à la radio, mes voix m'ont parlé, elles sont revenues, tout va s'arranger, et un mois plus tard, il se suicide. Et c'est grâce à cela que le voyant aura trouvé la liberté.
Comprendre enfin ce qui nous dépasse, c'est le propos de Didier Van Kovelaert dans son Dictionnaire de l'impossible, édité chez Plon.
Sur Europe 1, Franck Ferrand, vous répondrez à cette question. D'où viennent les expressions hôtel de police, hôtel de ville ou encore hôtel des impôts?
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Olivier qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. C'est même une question de sa femme qui nous demande d'où viennent les expressions hôtel de police, hôtel de ville ou encore hôtel des impôts.
Oui, je sais que ce terme d'hôtel est, comme on dit, polysémique. Il a un grand nombre de sens. Bien sûr, un hôtel, c'est un établissement de tourisme. Ça peut être une maison particulière, l'hôtel particulier. Et puis, depuis le Moyen-Âge, on emploie le terme d'hôtel pour l'hôpital. Vous savez, ça vient du latin hospes hospitis, ça a donné hostel en vieux français. C'est l'endroit où l'on accueille simplement et où l'on accueille notamment un certain nombre de services publics. On a employé ça très tôt. Alors, vous avez l'expression hôtel Dieu, bien entendu, pour désigner les hôpitaux à partir du 13e siècle. Et puis, petit à petit, l'hôtel, eh bien, ça désigne la maison qui peut être la maison commune. C'est en 1478 qu'apparaît cette acception d'hostel commun pour parler de la mairie, tout simplement de la maison commune. Donc l'hôtel, c'est aussi le lieu qui accueille un service public. Eh bien, c'est tout simplement l'origine de votre hôtel de police ou de votre hôtel des impôts. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors avec les experts Europe 1, nous allons parler des smartphones polyvalents et des tablettes polysémiques. Il y a les tablettes de chocolat pour vous reprendre, ou celles que l'on utilise tous les jours pour travailler, pour jouer, pour surfer sur Internet. Ce sont, paraît-il, les cadeaux stars de ce Noël 2013. Avec les experts Europe 1, je vous propose de définir les critères d'achat qui correspondent à votre usage et surtout, on va détecter avec eux, chercher les mini-prix. Vous pouvez nous contacter au 3921 ou sur europe1.fr, Franck.
Merci beaucoup Elena. Eh bien, bien, nous nous retrouvons demain, Céline, et nous nous retrouverons deux fois demain, oui. Évidemment à 14h à la radio et à 20h45 sur France 3 pour L'Ombre d'un doute, consacré demain à Fontainebleau.
À demain, Franck.